En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et il s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou, et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort. » Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras. » parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La question de la joie, du bonheur, posséder, est une question qui, maintenant, dans notre monde contemporain, est toute particulière. Les uns qui vivent en France se posent la question de leur satisfaction, de leur bonheur, avec le fait de ne pas être soucieux, de ne pas être énervé, de pouvoir bien dormir, de pouvoir avoir des loisirs et de ne pas trop se fatiguer par un travail qui les rendrait malheureux parce qu'ils seraient épuisés. Cela est vrai finalement aussi pour le monde entier. Quand quelqu'un se réveille le matin, il souhaite être heureux. Il ne souhaite pas être malade. Il ne souhaite pas avoir mal dormi. Il ne souhaite pas avoir mal à la tête. Le bonheur commence par la santé. Et ensuite, il se lève. Il ne veut pas être inquiet parce qu'il aurait faim. Le bonheur commence aussi par l'appétit et par le fait de pouvoir manger à sa faim. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien qu'il rencontre quelqu'un, à moins qu'il soit sur une île déserte et qu'il ait fait un potager. Alors, quand il se réveille le matin, si c'est une île qui est dans le Pacifique et qui fait très beau, il est heureux, il a bien dormi, et il va prendre sa nourriture, mais il pourrait avoir envie de manger de la viande. C'est plus compliqué. Ou alors il faut faire de l'élevage, ou il faut aller chasser. Mais tout cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est que lorsqu'on se lève le matin, eh bien la nourriture, elle a été produite, récoltée, par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui nous l'a vendue, qui nous l'a donnée. Si on est un adulte, eh bien, on a obtenu cette nourriture, qu'on nous l'ait donnée, qu'on l'a obtenue par notre travail, ou lorsqu'on est des enfants, eh bien, par nos parents. Mais nos parents, ils ont été actifs, ils ont travaillé, où ils ont obtenu cette nourriture. Ah, des êtres humains. On s'était réveillé et voilà qu'on voit des êtres humains. Et ces êtres humains, pour être heureux avec eux, il ne faut pas qu'on se dispute. Il faut qu'on se sourie, qu'on se dise bonjour, qu'on commence la journée avec eux. Eux aussi ont dormi, eux aussi se sont réveillés. Et la vie même se déroule ainsi. Arrive le midi et on mange plus abondamment. Arrive l'après-midi et on fait diverses activités. Les plus jeunes, on les éduque, on leur apprend des choses nouvelles. Mais ce n'est pas facile. Et puis ça peut être un peu lourd. On n'en voit pas l'utilité tout de suite. Ainsi donc, pendant des années, dans des pays où il y a des écoles, des collèges, des lycées, il y a des jeunes qui sont moins heureux parce qu'ils doivent travailler, apprendre, et comme on ne leur fait pas confiance et qu'on veut vérifier qu'ils ont bien mémorisé, on leur fait des contrôles. On a bien voulu éviter les contrôles et même ne plus noter, mais ça ne marche pas. La nature humaine est telle qu'elle a besoin d'être aiguillonnée. Et ainsi, les adultes, eux, sont allés à leur travail. Ils ont eu des collègues. Ils ont eu des hommes, des femmes. Les uns étaient jeunes, ou un peu moins jeunes. Et leur relation paisible, leur relation de vérité, de sincérité, ont dû passer par la parole, le dialogue, les nouvelles partagées. Un des premiers sujets de relations humaines, finalement, avec des étrangers ou des personnes qu'on rencontre, ou même en famille, c'est le temps. Et il fait beau. Alors, parce qu'il fait beau, pour un dimanche de la joie, eh bien, ça nous encourage. S'il pleuvait, et s'il faisait 4 degrés, on dirait, pour un dimanche de la joie, le bon Dieu aurait pu nous faire un temps différent. Voilà donc cette vie humaine, mais qui, avec le temps, arrive à la fin du travail, soit par retraite dans des pays organisés pour cela, ou par l'âge, quand on ne peut plus travailler, et ensuite par la dépendance à nouveau, où nos enfants ou des auxiliaires de vie nous entourent parce que nous sommes tellement fatigués ou tellement âgés que nos membres ne nous obéissent plus, on ne peut plus marcher facilement, on ne peut plus faire ses courses, et on doit bien s'entendre et être heureux avec des personnes qui s'occupent de nous, au point que nous retombions en enfance et qu'on se fait laver par des personnes. Voilà donc cette vie humaine brossée de manière un peu caricaturale, mais qui nous demande ensuite un point particulier. C'est puisque nous sommes des êtres humains et que nous voyons le monde, que nous voyons la matière, les minéraux, les rochers, les collines, l'herbe, les jardins. En ville, il faut de temps en temps aller voir ces endroits, ces squares où il y a de la pure nature. Et ensuite, ces relations avec les êtres humains, avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs, notre famille, le monde du travail, le monde des commerçants, des artisans, du plombier, du peintre, de celui qui va nous aider, de cette entraide sociale, eh bien, d'où vient cette vie humaine? Qui a eu l'idée de nous sortir du néant et de nous donner l'intelligence et la volonté par rapport aux chats et aux chiens, aux pigeons et aux moustiques, aux mouches qui vont revenir avec le printemps? Comment ça se fait? Eh bien, ce Créateur, pendant ce carême, il nous dit son amour, amour personnel, amour familial, amour social. Dieu nous aime un par un. Dieu a une relation personnelle avec nous. Dieu se soucie de chaque être, personnellement. Dieu Tout-Puissant nous voit nous réveiller. Dieu Tout-Puissant nous voit parler, penser pendant toute la journée, comme s'il ne pensait qu'à nous, comme si Dieu n'était fait que pour nous, tout seul. Et nous pouvons lui dire bonjour le matin, nous pouvons lui parler dans la journée, et il nous entend aussi précisément qu'il entend tous les autres. C'est Dieu. C'est notre Père. Et voilà que l'homme n'est pas satisfait. Il n'est pas assez heureux, il n'est pas assez joyeux. Alors il rentre en conflit. Il rentre en jalousie. Il rentre en égoïsme, il rentre en colère. Il rentre en indifférence, il rentre en paresse. Et c'est le péché. À quoi sert le péché ? À rien, à abîmer nos relations, à nous méfier les uns les autres, parce qu'on ne peut pas lire dans nos pensées. C'est pas mon ami, c'est pas tout à fait mon ami, c'est mon ennemi, et même au sein d'une famille. Alors que faire? Eh bien, Dieu veut prouver que cette création, c'est lui. Alors, il va demander à une femme, Marie, d'être la mère de son représentant, de son fils, de son envoyé, de son Messie. Et à travers les siècles, les hommes qui ont des relations plus ou moins conflictuelles avec leurs prochains et avec Dieu, voilà que Dieu se fait homme. C'est la religion. Alors vous me direz, les gens ont inventé plein de religions. Oui, mais la religion, c'est Dieu qui s'est fait homme. On ne peut pas passer à côté. Puisque nous sommes des êtres humains, puisqu'on se réveille le matin, puisqu'on se lave, puisqu'on mange, puisqu'on parle, puisqu'on travaille, puisqu'on est malade, on est soigné, et finalement on meurt, eh bien, Dieu, s'il s'est fait homme, c'est un événement. Et c'est un événement tellement particulier que le péché lui-même ne peut lui résister. Parce que ce Dieu prend la jalousie, la bêtise et l'égoïsme, il la prend de plein fouet pour lui, pour la détruire. Et il nous redonne le cours normal de notre nature humaine, c'est d'aimer et d'être heureux. Alors, pendant ce carême, alors que nous allons aller vers le chemin de croix et la mort de l'agneau de Dieu et de l'innocent, est-ce que l'on prend conscience que tout ce qui va mal, tous nos agacements, toutes nos tristesses, toutes nos frustrations ou insatisfactions ne sont rien par rapport à la certitude que Dieu nous aime, qu'il s'est fait homme, et que au moment de notre mort, tout n'est pas fini. Nous allons le rencontrer. Il va nous juger sur le bien, sur le mal regretté, et nous allons être heureux, nous allons être récompensés. Et cette vie après la vie terrestre sera une vie de bonheur qui dépassera tous les bonheurs terrestres et feront rayonner toutes les joies de cette vie terrestre, tous ces moments de paix, tous ces moments d'amour, tous ces moments de réconciliation. Voilà ce que Dieu essaie de dire à tous les peuples et à toutes les personnes. Seulement, voyez-vous, comment le dire à des hindous? Comment le dire à des musulmans? Comment le dire à des juifs? Car la parabole d'aujourd'hui est historique en même temps qu'elle est pour nous. Ce fils aîné, c'est le peuple juif qui est vexé parce que le veau gras, le Messie, Jésus, en mourant, donne de la joie, donne un festin, un repas de noces pour que le pécheur vive. Les premiers pécheurs, et puis les pécheurs des nations non-juives. Et il est jaloux, et il se dit, c'est pour moi que devait venir le Messie, pas pour eux. Et les musulmans, le pape François est au Maroc en ce moment. Comment leur dire la joie chrétienne? Eux qui sont dans la lutte par rapport au péché et au regard de Dieu. Mais où est la preuve de l'amour de Dieu? Où est cette incarnation? Où est cet agneau? Où est ce don? Et même s'ils ont Jésus comme prophète et Marie comme sainte femme, oh, il faut aller bien plus loin pour réconcilier le monde avec Dieu. Alors, il nous faut des missionnaires, il nous faut des hommes, des femmes, il nous faut des religieuses, enseignants, des religieux, il nous faut des prêtres qui donnent leur vie tout entière. En Amazonie, on va discuter au synode, on n'a plus de prêtres, alors on va prendre des hommes mariés, on va leur demander, vous ne voulez pas être prêtre? Oh, mais très volontiers. Mais le prêtre, quand il se sera bien occupé de son épouse et de ses enfants, avec les soucis de la vie, il faudra qu'il élève les âmes et qu'il élève lui-même son âme. Saint Paul avertit, si vous êtes marié, vous vous occuperez moins de Dieu. Mais s'occuper moins de Dieu, c'est avoir moins à transmettre de Dieu. Oh, cette crise spirituelle qui touche spécialement l'Occident, on la voit chez nos frères protestants, qui n'ont plus de pasteurs, qui peuvent être mariés, avoir des beaux appartements, un traitement familial. Non, Ils sont même allés jusqu'à demander à des femmes d'être pasteurs. Et puis comme on ne voulait pas trop leur faire de peine, eh bien des personnes qui sont dans des relations sentimentales compliquées, des hommes, des femmes, comme cet évêque de Stockholm qui vit avec une femme, qui est elle-même une femme. Voyez-vous, nous sommes dans une confusion. Et pour la joie, il faut ramener tout à Jésus. Qu'est-ce qui fait notre joie? Mais c'est que Dieu se soit fait homme et que nous puissions ne plus être seuls au monde. Que nous puissions aimer non seulement notre papa, notre maman, nos frères, nos sœurs, ceux avec qui on travaille, ceux qu'on rencontre dans le quartier, les commerçants et les artisans, mais que nous puissions aussi, quand on est tout seul, parler à quelqu'un qui nous aime. Et au moment de notre mort, retrouver des êtres aimés, mais aussi trouver la source de l'amour, qu'est Dieu. Et qui nous l'a montré? L'un d'entre nous, notre frère aîné, Jésus, né de Marie, avec Joseph, qui a été choisi pour être son gardien et son père sur terre, avec tous les saints et les saintes qui ont montré cet amour, qui ont montré comment s'occuper des autres, pardonner, aimer en un mot. Alors la joie, elle est dans la présence de Jésus. Ah, si nous pouvions croire que Jésus est dans l'hostie. Lorsque la vie terrestre s'arrêtera et que le Christ reviendra en gloire pour détruire le règne du péché et de l'antéchrist qui se sera répandu sur toute la terre lors de l'Apocalypse, l'hostie s'arrêtera, la messe s'arrêtera. Comme la manne s'est arrêtée après les 40 ans dans le désert. Et ça sera la fête, ça sera la joie, parce qu'on n'en aura plus à s'approcher de Jésus qui nous nourrit par la Sainte Hostie. Nous n'aurons plus à essayer d'entrer en relation avec lui avec plus ou moins d'efforts. Nous le verrons, nous le vivrons avec lui, nous le verrons avec nos yeux de chair, nous pourrons même le toucher. Comme nous pourrons toucher à nouveau nos parents, les êtres aimés, à la résurrection des corps. Oh, cela semble un peu lointain, et pourtant c'est si proche, l'espérance et la certitude que Dieu a vaincu la mort, comme saint Thomas qui voit Jésus vivant, les saintes femmes, Pierre, Jean, les apôtres, et Thomas absent, il voit cet homme crucifié, vivant et en bonne santé. Et enfin, il croit. Est-ce que nous, nous croyons en l'amour, en la bonne santé éternelle du corps et de l'âme? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.